Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolte qu'il y a dans ce pays. Et je vais demander à Brigitte de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé au congrès des maires ruraux, il y a 2 mois, sur la révolte des maires. Peux-tu dire un mot sur cette question-là ?
Bien. Au titre de la vice-présidence des maires ruraux de Dordogne, je suis allée avec mon collègue Alain Castan au congrès à Saint-Léger-des-Mélèzes qui a eu lieu au mois de septembre. L'association des maires ruraux de la Dordogne avait pris l'initiative de demander aux collègues qui étaient présents là-bas, 500 maires, de ne pas de mettre à disposition les résultats des prochaines élections européennes aux heures et aux jours d'ouverture dans nos mairies, mais de ne pas les porter au chef-lieu de canton comme on a l'habitude de le faire. Ça n'entraîne absolument aucune difficulté pour les votants et nos concitoyens. Par contre, pour faire voir à l'État qu'il a besoin des communes, on pense que c'est une des façons de se rendre indispensable. Et je voulais dire que c'était quand même un pas en avant vers la rébellion qu'a après enchaîné les Gilets jaunes, si je peux exprimer comme ça un peu ce genre de choses. On avait l'intention de bouger les lignes et de faire respecter les communes, chose qu'on n'a pas l'impression que l'État fasse.
Vous n'êtes pas écouté par...
Non, ça fait une dizaine d'années que moi je suis élu. Bon, je suis maire depuis 2008, élu depuis 2001. Et ça fait une dizaine d'années que je me dis que les Français sont drôlement patients. Je trouvais qu'il y avait une exaspération de tout le monde et qu'il a fallu un élément déclencheur pour mettre le feu aux poudres. Mais je dirais que les traînées étaient déjà, les sillons étaient creusés depuis quelques années, et qu'on se demandait pourquoi ça pétait pas avant.
Donc c'est... ce que ressentent tous les élus de la Dordogne. Vous avez porté cette revendication au Congrès des maires. Donc Alain, tu peux préciser un petit peu de choses, comment la bataille a été menée à ce congrès pour aller vers cette décision.
Mais cette décision, elle a été prise déjà par le bureau de la Dordogne. C'est une, parce que justement, nous, ça fait maintenant pas mal de temps, comme l'a dit Brigitte, l'on revendique le fait qu'on n'est pas écouté par nos gouvernants. Alors, bien sûr, ça date pas de Macron, ça de M. Macron, ça date bien avant, M. Sarkozy, M. Hollande. Et puis bon, en définitive, quelle est notre revendication principale? Je le répète encore une fois, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, nous n'en voulons plus. Donc cette origine de combat, nous l'avions demandé au Congrès des maires, qui a été entériné par le National et qui continue, parce que nous continuons à travailler sur cette optique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le National a prévu quelque chose de plus particulier dans la bagarre, suite au mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, c'est de sortir ses cahiers de doléances dans toutes les communes qui le souhaitent. Alors pour la Dordogne, c'est quand même un succès, puisque nous avons plus de 100 mairies qui ont accepté de le faire. D'autant plus qu'il y a même des mairies qui sont beaucoup plus grandes que peut l'être une commune rurale. Je rappelle, 3500 habitants. Et nous avons la grande surprise aussi de voir des communes comme Boulazac, comme Prigorieux, comme Creys, qui se mettent dans le pas du cahier des doléances. Et ce cahier des doléances, on va en reparler tout à l'heure. Mais enfin, c'est pour ça que j'ai tenu, en tant que président des maires ruraux, d'inviter... parmi les gilets jaunes, un gilet jaune qui a son mot à dire et qui va s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans l'instant T. Voilà.
Avant de donner la parole à notre ami, je voudrais que tu précises un certain nombre de choses. Tu nous avais dit à un moment donné que quand M. Macron est venu en Dordogne, qu'il ne voulait pas faire une loi sur la ruralité. Tu peux préciser votre... Alors, parce que je crois que ça fait partie des éléments de votre colère par rapport à ça.
Ben c'est exactement ça. Moi, bon, j'ai eu le privilège, comme je l'avais dit la dernière fois, d'être parmi les invités du dîner qu'il y avait eu sur la péniche à Périgueux. Et je lui avais posé plusieurs questions, dont celle qui était majeure pour nous et pour tous les maires ruraux, c'est de créer une loi sur la ruralité, justement pour faire opposition à la loi NOTRe. Sa réponse avait été claire et nette, et sur l'instant T, je ne ferai jamais de loi sur la ruralité. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils changent d'avis. Ou alors, non seulement nous allons suivre, et nous suivons les Gilets jaunes dans le cahier de revendications qu'ils ont, parce que dans les doléances, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais... Il faut que nos gouvernants, il faut que le président de la République et le gouvernement nous écoutent. Et justement, j'allais en parler, on sait que Mme Gouraud est venue dans le nord du département. Je la connais bien, je l'ai rencontrée plusieurs fois. La préfecture a oublié de nous inviter. Donc ça, je trouve déjà que c'est un premier geste qui est inélégant de la part du nouveau préfet. Je pense qu'il part dans de mauvaises conditions s'il ne doit pas discuter avec les maires ruraux.
Par rapport à ça, je crois que bon... Le gros reproche de ce gouvernement, c'est le mépris par rapport à la population, puis aux élus. Il ne faut pas confiance. Le fait de ne pas inviter, c'est dire que bon, vous servez à rien. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité montre que notre commune est utile. C'est important de le dire. Et je crois que ce gouvernement n'a pas compris, d'après ce que vous dites, vos revendications et qu'ils ne veulent toujours pas écouter. On donnera la parole à François par rapport à ça. Mais Brigitte, est-ce que tu peux préciser par rapport à ces questions-là, toi, de mépris, de ne pas vouloir écouter les élus?
Voilà. Je pense que déjà, il y a eu un mauvais contact lors du congrès des maires en général à Paris, puisque l'année dernière, il avait promis que chaque année, il viendrait nous voir. Je parle de M. Macron. Cette année, il nous a snobés, c'est-à-dire qu'il a jugé bon de ne pas venir nous voir, déjà les maires au national. Bon, il n'est pas élu, on peut peut-être lui pardonner ça, au moins il ne sait pas ce que c'est d'être élu local. Par contre, le fait qu'il continue à nous snober alors qu'il a besoin de nous et que maintenant il vient vers nous en nous disant qu'il a besoin de nous, je veux dire, mais il ne fait pas un pas en avant, quoi. Est-ce qu'il connaît vraiment notre travail? Est-ce qu'il sait ce qu'on fait? On a besoin des communes pour le lien social, on a besoin des communes pour vivre entre citoyens en bonne entente. Et ça fait des mois qu'on savait que quelque chose était en train de couver, sauf que ça fait des mois qu'on n'est pas écouté. Donc voilà, je serais tentée de dire que c'était prévisible. Voilà.
Je vais donner la parole à François, parce que le fait de ne pas être écouté, est-ce que vous avez le même sentiment aujourd'hui, vous, en tant que citoyen gilet jaune, et de dire peut-être un petit mot, parce que les élus locaux, eux, vous écoutent?
Alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Cette révolte est couvée depuis des mois. C'est une révolte des campagnes. C'est une révolte de la France d'en bas, comme disait Raffarin. De cette France que la technocratie parisienne n'écoute pas. C'est la révolte de la Gironde contre les Jacobins. C'est une révolte pour plus de proximité, plus de justice. Nous avons trouvé auprès de l'association des maires des communes rurales une écoute. On a commencé. Nous avons trouvé une écoute auprès de vous. On a monté quelques trucs ensemble et nous sommes appelés à en monter d'autres parce que nous aussi, nous sommes conscients. C'est pas la cause de tous les maux. Mais une grande partie des problèmes qui s'opposent actuellement aux campagnes, c'est la loi NOTRe. C'est ce regroupement de communes, c'est ce centralisme poussé à l'extrême, cette absence de décision sur le terrain. Les maires sont capables de le faire. Nous nous retrouvons avec un grand débat national. D'accord, il est lancé. Mais c'est un débat national qui, une fois de plus, va être mené de Paris. Je pense qu'en Dordogne, parlons de chez nous, les maires sont tout à fait capables de conduire un débat, des débats, sur les sujets qui nous intéressent à tous, que ce soit les services publics, que ce soit les problèmes de transport, que ce soit les problèmes d'emploi. Nous sommes tout à fait capables d'avoir ce débat entre nous et de nous battre ensemble pour faire aboutir nos projets. Parce qu'il va falloir y arriver à un moment, qu'on soit gilet jaune ou élu, il va falloir y arriver. Les grands partis sortent d'un congrès pour en préparer un autre, sortent d'une élection pour en préparer une autre. La seule stabilité qu'il y ait dans nos campagnes, ce sont les maires de petites communes, qui en général font 3-4 mandats, qui connaissent leur territoire par cœur. Je rappelle aux auditeurs la tempête de 98, s'il n'y avait pas eu les facteurs et les maires de communes rurales, il y aurait eu plus de dégâts que ça. Donc pour tous ces problèmes-là, nous sommes prêts à débattre et à agir ensemble. Voilà.
Donc comment tu ressens cette situation d'un citoyen qui dit effectivement aujourd'hui il est important qu'on retrouve nos communes, mais le lien social avec la population.
Il y a une évidence dans ce que dit François. Il a parlé de la loi NOTRe. Et vous voyez que les Français, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, connaissent bien la vie de la France. Et donc, quelque part, être ignoré par le gouvernement, bien sûr, ça s'est retourné contre eux. Et moi, je suis très heureux de voir qu'on peut travailler ensemble, parce que c'est vrai que j'ai, pendant plusieurs jours, j'ai arpenté les ronds-points, j'ai discuté avec où j'ai été très très bien accueilli par les Gilets jaunes, et c'est vrai qu'on a des points communs sur les revendications. Alors, François a parlé de beaucoup de choses qui touchent les maires, moi je vais parler des choses qui touchent les Français. Il y a d'abord en priorité le pouvoir d'achat, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, moi je le vois, on le voit nous les maires, les gens qui sont en difficulté pour finir les fins de mois, et c'est vrai que dans les mairies rurales, c'est souvent on vient nous voir pour payer un caddie, pour faire un plein de voitures pour aller au travail, pour aider une mère seule, pour faire garder un enfant. Enfin, toutes ces choses-là, mais on les connaît depuis très très longtemps. Et je pense que en définitive, la finalité, c'est que aussi bien les maires ruraux, on est des gilets jaunes en puissance. Et donc quelque part, on est tous ensemble et on est tous dans la même galère. Et puis bien sûr, il faut arrêter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut arrêter ce que fait M. Macron, la câlinothérapie. Aujourd'hui, on veut des actes. On veut des actes. Et la nouvelle ministre, je le lui ai dit, à Mme Gourault, c'est pas du blablabla qu'on veut, ce sont des actes. Et pour derrière des actes, bien sûr, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il faut mettre des moyens. Et les moyens, quand on voit ce qui se passe avec notre police nationale, je suis très inquiet. Parce qu'encore, le gouvernement repart dans ses mauvais travers.
Je reprends un peu ce qu'a dit François. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les élus de proximité, aujourd'hui, chaque citoyen de sa commune connaît le maire, même souvent par son prénom. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un citoyen connaisse le nom d'un des ministres, à part Macron, peut-être Monsieur Philippe, mais après... Le ministre des Transports, je ne suis pas sûr que les gens le connaissent. Le ministre des Communautés, des Collectivités territoriales, on le connaît. Et je crois qu'aujourd'hui, si ce gouvernement ne fait pas confiance aux élus de proximité qui connaissent bien leur population, on va aller vers la catastrophe. Brigitte, qu'est-ce que tu en penses ?
Ben oui, je pense que c'est ça. C'est l'occasion pour l'État de remettre à plat beaucoup de choses, les institutions peut-être, essayer de voir avec notre aide une façon d'arriver à changer tout ce qui part en travers. Je veux dire, on a le cahier de doléances chez moi, on a reçu 50 feuilles de doléances. Ça part de la transition énergétique avec les éoliennes et le fameux décret récemment publié qui supprime la possibilité de recours au tribunal administratif pour un citoyen riverain d'un projet de parc éolien. Et plein de choses qui ont été modifiées en catimini, dont les gens qui sont concernés se disent injustement condamnés. Enfin, je veux dire, voilà, on est toujours en train d'essayer de faire des petites choses par derrière qui empoisonnent la vie de chacun. Et ces petites choses, les unes après les autres, tout le monde s'en fout du décret pour les éoliennes. Ça touche une personne de temps en temps, sauf que c'est celle-là, ça touche celle-là. Un autre va être touché par autre chose. Et c'est plein de petites injustices qui arrivent à faire à des grandes rivières. Moi, je suis voisine de l'hôpital de Vauclair. Ça fait des années qu'on ne forme plus d'infirmiers en psychiatrie. Ça fait des années qu'il n'y a plus de psychiatre à Vauclair. J'ai une collègue qui est conseillère municipale qui a un enfant handicapé. Ça fait plus de 4 ans qu'elle attend une place. Enfin, je veux dire, on se targue d'avoir les meilleurs services médicaux, services sociaux, mais tout tombe en désuétude et personne ne fait rien. Je veux dire, on ajoute des lois aux lois on ne rebondit pas. On n'arrive pas. Alors, chacun, ça nourrit le mécontentement de chacun des citoyens à un niveau. Et puis ça a fait, comme je vous dis, la rivière, ça a fait qu'on arrive à des cahiers de doléances avec des centaines de points totalement différents les uns des autres. Alors on rejoint ce qui est dit au national, tout ce qui est bien sûr les taxes sur le gasoil notamment. Je veux dire, on n'a jamais connu le prix du baril aussi bas et on nous baisse pas le gasoil. Enfin, je veux dire, il y a des petites mesurettes de rien du tout. Les gens n'arrivent plus à comprendre. Voilà, c'est...
Oui, François, qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Brigitte sur cette question-là? Le fait que aujourd'hui, est-ce que sur les ronds-points, en dehors de l'augmentation du SMIC et la baisse des taxes, Il ressort beaucoup de questions sur la question des services publics.
Alors, sur les ronds-points, ce qui ressort, c'est 200 personnes sur un rond-point, c'est 200 revendications. C'est les cahiers de tolérance que vous, les maires, vous avez. Nous, on le prend en direct aussi. C'est tout ce qui n'a pas été fait dans nos campagnes depuis 30 ans qui ressort. Parce que, je me répète, c'est une révolte des campagnes. C'est-à-dire qu'on a englouti, et il fallait le faire certainement, des millions de francs et après des millions d'euros sur des politiques de banlieue, avec les résultats que l'on connaît, c'est-à-dire à peu près proche de zéro. On a fait appel à des cabinets, à des ci, à des là, il n'y a rien. Mais que l'on fasse un vrai plan Marshall, entre guillemets, pour les campagnes, et que l'on confie la gestion des projets aux élus de terrain et aux citoyens qui désirent s'associer à ça. On a un tissu associatif qui est riche, on a des élus, excusez-moi, des élus qui connaissent leur terrain, que l'on fasse des états généraux, mais des campagnes, avec nos problèmes. Quand on me parle de dédoubler des classes de cours préparatoires en banlieue, c'est très bien. Mais alors pourquoi ferme-t-on les classes qui ont 12 élèves dans nos campagnes? Est-ce que les gamins de Mareuil ou de Razac de Saussignac n'ont pas droit aussi à avoir une classe de 12 élèves? La question, elle est là maintenant. C'est-à-dire que nous sommes en train de devenir une réserve d'Indiens. Et ça, nous n'en voulons pas. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai envie qu'ils travaillent chez nous. Le problème, c'est l'emploi. On a monté des régies de quartier dans tous les quartiers difficiles. Ben, innovons un peu. Montons des régies rurales pour remettre le citoyen debout. Parce que la misère, maintenant, elle n'est plus dans les cités HLM, la vraie misère. Elle est au fin fond de nos campagnes, chez des marchands de sommeil, dans des logements innommables, où il y a des gens qui sont dans une détresse énorme. Mais comme c'est dans des villages, des hameaux de 15 habitants, on n'en parle pas. Mais c'est ces gens-là qui sont sur les ronds-points, il ne faut pas l'oublier.
Donc tu as dit que tout à l'heure, il y avait une centaine de mairies qui avaient répondu à l'appel de l'Association des maires ruraux sur les cahiers de doléances. Brigitte a dit que dans sa commune, une cinquantaine de personnes avaient posé... Donc si on fait... Si c'est une moyenne, ça fait à peu près 5000 doléances qui ont été posées. Qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez centraliser par rapport au département, parce qu'on va parler de notre département, parce que c'est important, de dire qu'est-ce qu'on va faire de ce doléance, parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose qui aille dans une corbeille. Il faut utiliser ce qu'a dit François, ces éléments-là pour construire et construire notre France rurale.
Voilà, alors... D'abord, ces doléances, je les ai reçues de tout le département. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mairies qui avaient joué le jeu et qui continuent à jouer le jeu. Ces doléances sont remontées au niveau national de notre association qui en fait une synthèse et qui sera remise au gouvernement. Par contre, ces synthèses-là, département par département, elles seront remises à tous les parlementaires, sénateurs et députés du département, ainsi qu'au préfet. Il est important, le préfet, c'est le représentant de l'État, c'est le premier à avoir ses synthèses. Et là, il y a un nouveau préfet, j'ai demandé à être reçu très rapidement, de façon qu'on puisse lui porter tout ça. Ce qu'il y a aussi, qui est très important, depuis dimanche, vous avez pu... Alors, il y a des gens qui ne le savent pas, mais les élus le savent. Nous avons lancé un appel au peuple français. Par le biais d'un journal, par le biais du journal du dimanche. Alors c'est en train de se décentraliser, d'être les presses se sont emparées de ça. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs points communs qui sont très importants. Alors cet appel du peuple français, il commence par le mot « j'existe ». Et c'est primordial. Et j'existe, ça veut dire que l'homme ou la femme du monde rural et du monde des territoires ruraux existe. Et ils veulent exister. La deuxième chose qui est faite, c'est de faire un appel à la jeunesse. Et nous appelons dans cet appel au peuple français notre jeunesse à dire, de leur dire... Soyez les nouveaux visages de nos villages, parce que c'est très important. Il faut qu'il y ait de la jeunesse dans nos villages ruraux. Le deuxième point qui est important et qu'on revendique, c'est que la commune, c'est un bien commun, parce que c'est elle qui a toute la légitimité de ce bien commun, puisque c'est le premier socle de la République en 1789. Après, il y a une chose que nous souhaitons, c'est qu'ensemble, c'est-à-dire tous les citoyens, on fasse notre part et nous, nous disons au gouvernement, faites votre part et nous ferons la nôtre. Et ça, c'est important aussi, donc qu'on puisse avoir cet échange, parce que nous, on va prendre nos responsabilités. Voilà, parce que le cri légitime de ces millions de Françaises et de Français, et il se joint à celui des élus ruraux. Voilà, donc cette période que nous vivons est une opportunité pour le pays. Et si les gens répondent à cet appel, eh bien, il faut le saisir et il faut aller plus loin. Pourquoi ? Parce que le dernier point que nous avons mis sur cet appel, c'est que nous ne voulons plus être les éternels oubliés de la République. Donc on veut comme l'a dit ce texte, le président, nous ne voulons plus, nous invitons les Français à se débarrasser du complexe du plouc. Nous ne sommes pas des ploucs, nous sommes des gens responsables. Et je pense que dans les campagnes, on fusionne d'idées, on fusionne de beaucoup de choses. Et c'est vrai que quelque part, on a besoin d'être écouté par ces hauts fonctionnaires qui sont déconnectés, mais c'est eux qui gouvernent. En définitive, on s'aperçoit que les élus, ils se protègent derrière ces gens-là. Et puis bon, il faut qu'ils essayent, ces gens-là, d'avoir raison tout seuls contre le peuple. Ça, c'est plus possible. Et donc, il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont rémunérés par nos impôts. Ça, c'est une chose, mais qu'il faut qu'ils nous aident à construire notre pays. Alors plutôt que de tenter de le faire à leur idée, il faut qu'ils sortent de ce bocal parisien qui les éloigne de nous et les englue dans leurs certitudes qui sont très, très souvent très discutables. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et à partir de là, si on est écouté, on engagera le dialogue et on l'engagera non seulement avec les élus ruraux, mais avec tous les Français.
Donc tu es... Ce que tu viens de dire là, d'une manière générale, je vais résumer, c'est que vous, en tant qu'élu des petites communes, vous représentez effectivement le peuple. Aujourd'hui, on a certains élus qui, quand on les rencontre, ils nous disent « moi, je suis le représentant du gouvernement ». On voit la différence de conception des élus, parce que le représentant du gouvernement, c'est le préfet, c'est pas le député. Quand un député il dit « je suis le représentant du gouvernement », il n'a pas compris son rôle d'élu, d'être à l'écoute du peuple, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui pose effectivement problème, c'est aujourd'hui, on en vient à ce que proposent les gilets jaunes sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est parce que certains élus, qu'on pourrait dire, parce qu'on pourrait dire que vous êtes des petits élus, ne font pas leur boulot. Brigitte, qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Oui, certains élus ne font pas leur boulot. Le député, tel qu'on l'a fait comme ça, on a voulu l'isoler. Il a pu être député-maire, sauf qu'on a gagné à avoir des espèces de députés qui connaissent rien, qui n'ont jamais mis les pieds nulle part, et qui se retrouvent dans la majorité du gouvernement parce que c'était dans l'air du temps. Je veux dire, l'ère Macron a aspiré tous ces gens qui sont devenus des députés, mais on a l'impression qu'ils ne font pas partie de notre cercle de vie. Enfin, je veux dire, ils sont déconnectés de tout. Ils n'ont plus aucune attache avec les communes telles qu'elles sont maintenant, même si y en a qui font preuve d'effort. Hein. Enfin, je ne veux pas dire non plus qu'ils vont peut-être s'y mettre, mais c'est un peu trop tard. Je veux dire, ils sont tout neufs. Nous, on a besoin de réponses maintenant. On n'a pas besoin de réponses dans 10 ans. C'est maintenant qu'on a besoin qu'ils se bougent. On a besoin d'avoir leur appui, d'avoir des députés qui tiennent tête aussi à M. Macron. Or, ce n'est pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On a l'impression d'avoir une colonie de béni-oui-oui-oui. Et quand on voit les députés, comment ils ont pu parler avec les gilets jaunes ou à la télévision, on se rend bien compte qu'il y en a très très peu qui tiennent la route, quoi. Je veux dire, voilà, faut pas se mouiller. Dès qu'ils disent quelque chose, ils sont retoqués. Enfin, il y a quand même... voilà. Alors, moi, j'ai une solution. On parle que Bercy commande, Bercy gouverne. Je pense aussi, beaucoup de gens ont dit qu'il fallait supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration. Je pense que ça serait une bonne chose. Ou alors, il faudrait à ces messieurs de l'ENA, leur faire un stage dans nos campagnes. Moi, je suis prête à les accueillir pendant 2 ou 3 mois dans chacune de nos campagnes, leur mettre un peu les pieds dans les tas de fumier, dans la glaise et chez moi, dans l'argile. Et je vous assure que sortis de là, ils auraient une autre vision de l'État et une autre vision des citoyens.
Je veux juste abonder dans ce qu'elle dit, justement par l'image que j'ai, moi, de nos parlementaires en Dordogne. Il y a 4 députés en marche. Et là, c'est vraiment une belle image. J'ai été invité à la dernière assemblée des retraités agricoles. Ils étaient plus de 1000 dans la salle. C'est là que j'ai vu un petit peu comment les gens sont élus. Nous en avons 2 qui ont fait preuve d'une grande incompétence, je dis. Et ça, les retraités agricoles l'ont vite de suite. Il y en a un qui était absent, bon, on peut pas juger par rapport à ça, et il y en a un troisième qui était Jean-Pierre Cubertafon, qui a été maire d'une commune rurale, et qui, lui, a arrondi les angles. C'est là qu'on voit les gens sur le terrain. Parce que, et là, aujourd'hui, Jean-Pierre essaie de sortir ses collègues de ce mauvais pas. Le seul problème, c'est que ses autres collègues s'engluent dans les difficultés, et au lieu de dire « j'ai eu tort », ils continuent dans leur vision des choses. Donc il faut que ces gens-là, ils remettent les pieds sur terre et qu'ils aient un bon sens paysan de façon à écouter ce que les gens leur disent. Voilà.
François, par rapport à ça, je te laisse 2 minutes parce qu'on va bientôt finir.
Bon, c'est très simple. Brigitte, tu as abordé le fond du problème, l'ENA, l'énarchie. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'ENA. Par contre, il faudrait mettre quelque part dans la Constitution, comme pour et dans la loi, comme pour les officiers supérieurs, les commissaires de police, les préfets, que quelqu'un qui a fait l'ENA, il ne peut pas être candidat à une élection. Il est formé pour être un grand commis d'État. Il n'est pas fait pour être un député. Il n'est pas fait pour faire une carrière politique. Il est fait pour servir les politiques et pour servir l'État. Que chacun retrouve sa place et que les politiques reprennent leur place. Parce qu'actuellement, à la Chambre des députés, nous avons des députés, sur les ronds-points, on les appelle les députés Playmobil. C'est-à-dire qu'ils sont justement à lever le bras pour voter. C'est tout.
C'est très joli.
Alain, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que tu fais une petite conclusion par rapport à tout ça par rapport au cahier de doléances, je pense que l'association des maires ruraux va demander à l'ensemble des maires de continuer cette action pour pouvoir avoir le maximum de doléances, pour pouvoir effectivement faire remonter à ce gouvernement.
Oui, nous continuons ces cahiers de doléances parce que de plus en plus de mairies nous demandent de le faire un peu plus tard parce que ça avait été pris très très rapidement et c'est vrai que ça en a bousculé certains. Donc quelque part on les continue, on les continuera tant qu'on n'aura pas fini les synthèses. Donc on continue ce combat. Moi j'espère que les gilets jaunes. Alors c'est vrai que quelque part on se rend compte que d'abord, ils sont cernés par M. Castaner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'y mettre un peu plus de force, mais je pense qu'il y en a qui résisteront. Je pense qu'il faudrait, je l'ai déjà dit, et je pense que François est d'accord avec moi, il faut qu'ils se structurent, parce que s'ils ne se structurent pas, ils ne pourront pas collecter des revendications qui restent pour l'ensemble des Gilets jaunes. Ça, c'est important. Puis il y a une troisième chose que je voudrais dire, et je voudrais alerter aussi nos présidents d'intercommunalité, nos présidents ou de communautés d'agglos. Et je l'ai déjà dit dans les réunions, et je le dis, il y a aujourd'hui, il y a tellement de travail, on a donné tellement de compétences à ces gens-là qu'ils ne gouvernent même plus leur intercommunalité. Moi, je le vois, je suis vice-président de l'agglo de Bergerac. Vous allez maintenant à des réunions à la région, à Bordeaux. Ces élus ne sont pas présents, c'est pratiquement toujours des directeurs généraux des services, c'est-à-dire, c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est l'ENA décentralisé, c'est-à-dire ils se prennent pour des petits énarques et ils pensent qu'ils vont diriger nos communes à la place des élus. Et bien, ils se trompent, parce que les élus, on sera là derrière pour aussi surveiller nos présidents d'intercommunalité. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la MRF est en train de travailler avec M. Lecornu, qui est le nouveau ministre des territoires. Nous travaillons pour qu'il y ait une modification de la représentation des communautés de communes et des communautés d'agglos. On a besoin des maires ruraux et il faut qu'ils soient mieux représentés parce que les maires ruraux aujourd'hui représentent la population, la vraie population.
Ben je vous remercie. Donc je pense que Alain, Brigitte et François, vous allez vous associer avec moi pour souhaiter à nos citoyens de bonnes fêtes de fin d'année, parce que malgré la situation, ça va être quand même un petit peu difficile. Mais bon, on souhaite à tout le monde que l'année 2019 sera vraiment meilleure pour l'ensemble des citoyens et pour les maires par rapport à 2018, et qu'on va pouvoir résoudre un certain nombre de points importants. Donc je vous remercie encore, et donc on se retrouve le mois prochain pour une émission « Ma commune est utile ». Merci à tous.
Merci.
Merci, au revoir. Merci.